Bonjour, vous êtes sur CFM avec Josiane Andrieux pour votre émission Namasté. Alors avant de commencer cette émission de bien-être, de détente, eh bien vous pouvez vous installer confortablement dans un endroit tranquille. Vous pouvez baisser les lumières mais aussi vous déchausser pour être plus à l'aise. Ceux qui sont souples peuvent s'asseoir par terre sur un tapis. Et ceux qui ont des difficultés dans leur corps peuvent s'asseoir sur une chaise ou un fauteuil bien dur, de façon à ne pas s'affaisser car il est important de garder son dos bien droit pour éviter des tensions et des douleurs. Alors dans la première partie, nous allons continuer de parler de la vie de Krishnamurti. Nous continuerons ensuite avec la philosophie de la méditation bouddhiste tibétaine. Puis nous ferons quelques petits exercices physiques. Alors je rappelle que ce sont des exercices très basiques car il est très difficile de présenter à la radio une grande diversité de ceci. Toutefois, si vous intéresse, vous pouvez toujours aller consulter mon site qui est étirementyogaaveyron.com ou bien venir me rencontrer dans mon atelier à Villefranche-de-Rouergue qui se situe 6 rue de la Treille. Nous ferons ensuite une pratique de méditation bouddhiste tibétaine et nous terminerons sur la phrase de la semaine. Durant son éducation, en 1910, Krishnamurti passa 2 jours et 2 nuits dans les appartements d'Annie Besant, seul, enfermé avec Leadbeater pour son initiation. Il serait alors remonté dans ses vies antérieures et aurait finalement été accepté par les Mahatmas de la théosophie. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que les Mahatmas, Mahatma signifie grande âme. Ses tuteurs travaillèrent à polir son image publique, son apparence, et lui inculquer une attitude de détachement dans la présence qu'il conservera toute sa vie. Dès 1910, les plus zélés des théosophes d'Adyar créèrent un Order of the Rising Sun qui vénérait l'instructeur du monde en la personne d'Alcyone. Mais cet ordre fut très vite dissous en 1913. Et il fut cependant assez vite remplacé par l'ordre de l'Étoile du Matin créé par Annie Besant. Elle considérait que cet ordre n'était pas lié à la théosophie, mais était l'ébauche d'une future religion universelle. Cette création fut d'ailleurs une des raisons du départ de Rudolf Steiner, qui quitta la société théosophique pour créer sa société anthroposophique. D'autres théosophes protestèrent énergiquement et démissionnèrent à leur tour. En 1911, Annie Besant amena donc Krishnamurti et son jeune frère à Londres, où il rencontra Emily Lutyens, fille de l'ancien vice-roi des Indes Robert Leighton et épouse de l'architecte Edwin Lutyens. Ce dernier fut envoyé à Delhi comme architecte officiel en 1912. Emily, sur qui Krishnamurti avait fait forte impression, se convertit à la théosophie afin de passer le plus de temps possible aux côtés de lui. Elle apporta aussi un important soutien financier à l'éducation du jeune homme et à celui de 2 amis, dont l'américaine Mary Dodge et la comtesse britannique Muriel Delawar. Les 2 frères passèrent toute la Première Guerre mondiale en Grande-Bretagne, se déplaçant de résidence en résidence et passant leur temps à étudier et à s'occidentaliser. L'idée était à terme de réussir à les faire entrer à Oxford. Cependant, le caractère rêveur et le manque d'attention de Krishnamurti finit par faire renoncer leur mère adoptive à cet espoir. Elle, qui était restée en Inde, était très engagée dans la lutte pour l'indépendance. Elle en vint même un temps à douter qu'il était vraiment l'instructeur attendu. En 1921, il contracta une bronchite qui devint une maladie chronique chez lui. C'est aussi la même année où il tomba amoureux d'une jeune femme de 17 ans, Hélène Knott, dont les parents étaient impliqués dans la Société théosophique. Mais il s'en sépara rapidement à cause du sens de sa mission à venir qui devait, selon lui, lui empêcher toute vie normale. L'année suivante, il se rendit en Australie, puis en Californie avec Annie Besant. À Auger, elle acquit un terrain d'où elle espérait que le renouveau que devait apporter Krishnamurti serait un départ. À l'été 1922, selon ses propos rapportés par Lutyens, il vécut une expérience transformatrice qui, bien que systématiquement accompagnée de violents maux de tête, fut qualifiée par lui-même d'éveil spirituel, ce qui devait changer sa vie. Ce qu'il baptisa le processus et qu'Annie Besant appelait le réveil de la Kundalini, et au cours duquel il dit avoir ressenti une présence, une bénédiction, une immensité, un état autre et un sens du sacré, auquel il fit souvent référence dans son enseignement, en particulier dans ses carnets, réapparut de façon récurrente tout au long de sa vie. À cela s'ajouta la mort de son frère en 1925, à l'âge de 27 ans. Ceci l'ébranla fortement, si bien qu'après avoir passé toutes ces années soumis à la vision que ses tuteurs avaient de lui, déclarant même souvent qu'il ferait tout ce qu'on lui demanderait, il commença, à partir de ces événements qu'il venait de vivre, à contester les directives qui lui avaient été imposées, mais sans pour autant tout à fait désavouer l'idée selon laquelle il serait ce Messie. Et on enchaîne avec la philosophie de la méditation bouddhiste tibétaine. Il ne faut pas croire que lorsqu'on pratique la méditation, tout va devenir calme tout de suite. La première fois qu'on pratique le calme mental, eh bien, il y a en nous une agitation énorme. Et plus on pratique, et plus on a l'impression que cela s'empire. Et en fait, il n'y a pas plus d'agitation que la première fois. Mais ce qui se passe, c'est que, au fur et à mesure de la pratique, comme on prend plus de distance par rapport à ce qui s'élève en nous, eh bien, on commence mieux à voir ce qui se passe en nous, et on va voir l'état dans lequel on se trouve, qui est un état de grande confusion. Et c'est sur la base de cette grande confusion que, petit à petit, on va essayer d'avoir de moins en moins de confusion. Mais au départ, il est important de voir toute cette agitation, toute cette confusion. On ne peut pas se transformer tout de suite. Il faut du temps, il faut même beaucoup de temps. parce que notre ego prend toute la place et ça ne va pas être facile de le mettre un peu de côté. C'est pourquoi il est important d'avoir un maître pour nous accompagner sur ce chemin. Parce que le maître va nous donner les moyens. D'abord, il va nous laisser expérimenter. Il va nous laisser nous tromper. Mais il n'en reste pas moins qu'il sera toujours là malgré tout. Et ce n'est pas parce que c'est un travail intérieur qu'il n'y a pas de risque. Parce que l'ego, il est toujours là. Et il est toujours là où on ne s'y attend pas. Un maître, c'est quelqu'un qui va voir si la personne est en train de construire un parfait bouddhiste. C'est-à-dire un être en surface, tout gentil, tout souriant. Ou bien si la personne a vraiment une transformation qui se fait de l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un maître. Parce qu'il va nous aider à éviter les pièges de l'ego. Et ce qui est important, c'est de se centrer sur chaque pas qu'on fait et non sur le but. Alors le but, bien sûr, il est merveilleux, mais il est pour nous peut-être un peu loin, peut-être même très loin. Donc, pour l'instant, eh bien, contentons-nous de nous dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je découvre. Et c'est ceci qu'il faut se poser comme question. Dans la méditation, on va à la découverte de notre être. Grâce à la méditation, on va faire connaissance avec soi-même et on va surtout arrêter de se raconter des histoires. Et c'est pourquoi il est important de garder les yeux ouverts dans la méditation. Sojal Rinpoche dit qu'on garde les yeux ouverts pour plusieurs raisons. D'abord, ainsi on a moins tendance à somnoler. Ensuite, la méditation, il faut savoir que ce n'est pas un moyen de fuir le monde ou de s'en échapper par le biais de l'expérience extatique d'un état de conscience altéré. Non, la méditation, c'est au contraire un moyen direct pour nous aider à nous comprendre véritablement et à nous relier à la vie et à l'univers. Dans la méditation, on ne se coupe pas de la vie, on demeure au contraire réceptif et en paix. Il ne faut pas se décourager, ni abandonner la méditation parce que nous voyons nos pensées se déchaîner, parce que c'est un processus normal. Au contraire, cela montre que nous sommes devenus plus calmes et que nous prenons conscience de tout ce qui s'élève dans l'esprit. Donc, il faut laisser faire et continuer simplement à demeurer présent à nous-mêmes. Pour cela, il suffit de revenir sur notre respiration, même au beau milieu de la confusion. Et certaines personnes pensent que lorsqu'elles méditent, elles ne devraient pas avoir des pensées ou des émotions. Et tout ceci est complètement erroné. Il y a un proverbe tibétain qui dit « C'est beaucoup demander que de vouloir de la viande sans os et du thé sans feuilles ». Tant que nous aurons un esprit, eh bien des pensées et des émotions s'élèveront. Sujal Rinpoche dit « De même que l'océan a des vagues et le soleil des rayons, ainsi les pensées et les émotions sont-elles le propre rayonnement de l'esprit ?» Et dans la méditation bouddhiste tibétaine, il y a une méthode, et cette méthode va nous préparer à reconnaître ce potentiel qui est en nous. Mais encore une fois, il faut y aller relax. Parce que si on veut un résultat tout de suite, eh bien, on va être très très vite déçu. Ce n'est que petit à petit qu'une transformation va se faire de l'intérieur.
Baby.
enchaîne avec des petits exercices physiques. Alors, vous allez travailler debout et on va échauffer le dos. Alors déjà, vous avez commencé par lâcher vos tensions. Donc pour ça, vous allez faire des rotations d'épaule, toujours pareil, des cercles, de l'avant vers l'arrière, 5 à 10 fois, et puis de l'arrière vers l'avant, 5 à 10 fois également. Donc vous faites cela tranquillement, en veillant à garder le dos bien droit, en étant bien stable sur vos jambes, la tête droite dans l'axe. Et maintenant, on va échauffer un petit peu le dos. Donc, vous allez écarter les pieds une coudée. Les Indiens prennent toujours leurs mesures par rapport à leur corps. Ils ne partent jamais en centimètres. Donc, une coudée, c'est-à-dire, ça part du poing fermé au coude. Là, vous avez une coudée. Par exemple, ils vont vous dire écarter un pied. Donc, eh ben, vous prenez l'écartement de votre pied, où il parle en pouce, ou en doigt, ou en main, voilà. Donc là, vous allez écarter les pieds, une coudée, pied tourné légèrement vers l'extérieur, et vous allez monter vos bras, bien à l'horizontale, dans l'alignement des épaules, et vous allez former un angle droit entre le bras et l'avant-bras. C'est ce qu'on appelle de mettre ses bras en chandelier. Voilà, donc vous essayez de visualiser un petit peu ça, les chandeliers. Et en expirant, vous allez rapprocher vos coudes, toujours en gardant les coudes à hauteur des épaules. Parce que si vous abaissez les coudes, eh bien vous n'allez plus faire travailler la partie haute. Et l'intérêt de cet exercice, c'est de faire travailler la partie haute, c'est-à-dire les épaules, les omoplates, le cou, les trapèzes. Donc, en expirant, vous rapprochez les coudes l'un de l'autre. En inspirant, vous ramenez les coudes sur les côtés. Donc, expiration, vous rapprochez vos coudes. Inspiration, vous ouvrez vos coudes. Vous travaillez tranquillement en associant bien donc votre respiration au mouvement. Vous faites ce mouvement une dizaine de fois. Ça risque de tirer un petit peu dans le haut du dos, c'est tout à fait normal, et vous allez faire monter la chaleur dans le corps, donc c'est bien pour vous, et puis vu le temps qu'il fait à l'heure actuelle, c'est pas mal. Donc expiration, vous rapprochez les coudes l'un de l'autre, inspiration, vous écartez les coudes. Maintenant vous arrêtez ce mouvement, et pour lâcher les tensions qui ont été un petit peu créé dans le haut du dos et puis au niveau de la nuque, et bien en expirant vous allez rapprocher l'oreille droite de l'épaule droite sans monter l'épaule, on ne triche pas. Donc expirez, penchez votre tête vers la droite, puis inspirez, vous remontez votre tête, et en expirant vous rapprochez votre oreille gauche de l'épaule gauche. Puis vous inspirez, vous remontez votre tête. Vous faites encore cet exercice une fois de chaque côté, en associant bien la respiration au mouvement. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez placer les pouces sur les épaules, les paumes tournées vers le ciel. Les mains sont donc bien flexes et vous devez sentir un petit étirement dans les poignets. Ce que vous allez faire, en expirant, vous allez pousser les paumes vers le ciel, comme si vous repoussiez quelque chose de très résistant. Et en inspirant, vous ramenez vos pouces sur les épaules. Donc à l'expiration, vous poussez les paumes vers le ciel, et en inspirant, vous ramenez les pouces sur les épaules. Pareil, vous faites ce petit exercice une dizaine de fois. Associez bien la respiration au mouvement, et pareil, vous allez sentir que ça chauffe dans le haut du dos, c'est tout à fait normal, et vous allez certainement sentir une tension dans les trapèzes, c'est normal aussi. Donc voilà, vous faites tranquillement ce mouvement, vous arrêter et ce qu'on va faire pour soulager les tensions qui ont été créées par cet exercice. Et bien comme précédemment, en expirant, vous rapprochez l'oreille droite de l'épaule droite et en inspirant, vous remontez votre tête. Puis vous expirez, vous rapprochez votre oreille gauche de l'épaule gauche, puis vous inspirez et vous ramenez la tête dans l'axe. Vous continuez une fois de chaque côté cet exercice. Maintenant, vous allez serrer les paumes sur poitrine, vous expirez et en inspirant, vous montez vos bras au-dessus de votre tête, paumes serrées l'une contre l'autre, étirez bien tous vos bras, tout votre dos. Restez comme ceci en étirement, 2 secondes, puis vous expirez et vous descendez les bras de chaque côté du tronc. On recommence encore une fois l'exercice, on expire, puis en inspirant, vous montez vos bras au-dessus de votre tête, étirez au maximum, restez en étirement 2 secondes, puis vous expirez, vous descendez les bras de chaque côté du tronc. Maintenant, soit vous allez vous asseoir sur votre chaise, soit vous allez vous allonger sur votre tapis. Si vous avez des problèmes de dos, vous repliez les jambes pour ne pas cambrer, pour protéger vos lombaires. Si vous n'avez pas de problème de dos, eh bien, vous allongez vos jambes et vous basculez les pieds sur l'extérieur. Pensez à garder le dos bien droit, la tête bien droite dans l'axe et restez concentré sur votre respiration abdominale. Fermez les yeux. À l'expiration, vous rentrez le ventre. À la fin de l'expiration, vous relâchez le ventre. Puis vous inspirez. Continuez à rester centré sur votre respiration.
Yeah.
On enchaîne avec la pratique de la méditation bouddhiste tibétaine. Alors, avant de commencer cette pratique, je vous rappelle que vous êtes sur CFM avec Josiane Andrieux pour votre émission Namasté. Émission que vous pouvez retrouver tous les lundis à 20h, mais aussi tous les dimanches à 9h. Mais aussi sur Internet, vous allez sur votre moteur de recherche, vous recherchez CFM Radio Villefranche et vous cliquez sur Namasté. Alors, avant de commencer cette pratique de méditation bouddhiste tibétaine, eh bien, vous allez vous asseoir en veillant à garder le dos bien droit. Donc, pour ça, il vous faut être assis d'une manière confortable. Et pour cela, eh bien, vous allez ramener un peu le bassin vers l'avant, de façon à ce que la colonne vertébrale soit droite et sans tension au niveau de la nuque. Vous pouvez prendre la mudra de la méditation en posant la main droite sur la main gauche, phalange sur phalange, pouce l'un contre l'autre. Ensuite, vous allez soit, ceux qui sont assis par terre vont être en tailleur, ceux qui sont assis sur une chaise vont garder les jambes parallèles entre elles. Vous gardez les yeux ouverts, de façon à ne pas vous couper du monde extérieur. Et vous allez rester ainsi, en état d'ouverture. Si vous avez trop d'agitation mentale, vous pouvez simplement poser le regard vers le sol, mais sans fixer quoi que ce soit sur le sol, juste le regard posé. Et si au contraire vous avez tendance à tomber très rapidement dans la torpeur, eh bien, au contraire, levez un peu le regard pour réveiller la conscience. Ensuite, pour lâcher les tensions au niveau des muscles du visage, eh bien, il faut desserrer les dents et les lèvres en laissant passer un léger sourire. Parce que il est dit que si les muscles du visage sont détendus, eh bien, tous les muscles du reste du corps seront détendus également. Et donc, vous entraînez votre esprit à rester ainsi dans cet état de paix, de détente intérieure, de tranquillité, ouvert à tous les phénomènes intérieurs et extérieurs, mais sans les saisir. On les laisse simplement défiler. On entraîne son esprit à être juste l'observateur de tout ce qui se passe, sans s'accrocher à quoi que ce soit. Rien ne nous dérange, ni les bruits, ni les formes, ni les couleurs. Et on est ici et maintenant, présent à l'instant, complètement détendu et ouvert. Si vous avez du mal à entraîner votre esprit à être là, présent à l'instant, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est prendre comme support la respiration. À chaque fois qu'on inspire, eh bien, on est conscient qu'on inspire. À chaque fois qu'on expire, on est conscient qu'on expire. Mais sans forcer quoi que ce soit. Même cet exercice-là, il doit être fait de façon détendue. Et donc, lorsque nous nous rendons compte que nous suivons nos pensées qui s'élèvent, eh bien, sans culpabiliser, sans juger sa méditation, sa pratique, eh bien, on revient tranquillement sur le va-et-vient du souffle, sans saisir les phénomènes mentaux, quels qu'ils soient. Ils apparaissent et on ne les saisit pas, puis ils disparaissent. Et c'est comme ça d'instant en instant. On pourrait comparer notre esprit à l'océan avec ses milliards de vagues. Si on veut rendre l'océan plat, il faut enlever toutes les vagues et ça c'est impossible. Eh bien pour notre esprit c'est pareil. Une pensée s'élève, puis elle meurt, puis il y en a mille autres qui arrivent derrière. Et on ne peut pas arrêter les pensées. Il y en aura toujours, encore et encore et encore, et c'est sans fin. Donc, la méditation, c'est ça, c'est simplement entraîner son esprit à voir, sans s'accrocher, sans suivre. Et rien n'a d'existence propre. Une pensée apparaît, puis elle disparaît d'elle-même. Elle ne vient de nulle part et ne va nulle part. On reste dans cet état de détente. On essaie de développer la présence à l'instant et de voir. Voir notre esprit non perturbé, stable, assis, posé. Cet aspect que les maîtres appellent « n'est pas ». Et évidemment, cet aspect-là ne dure pas longtemps. On est beaucoup plus souvent dans l'agitation que dans l'esprit posé. Ou bien voir notre esprit en mouvement, c'est-à-dire une pensée qui s'élève, la perturbation qui prend place, puis une autre pensée, puis une autre. Et ça, c'est le deuxième aspect que l'on trouve dans la méditation et que les maîtres appellent jiwa. Et ne prenons pas cet aspect comme un défaut. C'est normal, en méditation, notre esprit est tantôt dans le calme, tantôt dans l'agitation, et plus dans l'agitation que dans le calme. Donc, c'est pas la peine de s'inquiéter de cela. On s'entraîne simplement à voir ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur, sans fixer quoi que ce soit. Apprendre à regarder tout, sans analyser, sans commenter, à rester tranquille, posé, en émerveillement devant cette nature, devant la vie qui change d'instant en instant. Parce que plus on va être posé, et plus on va se rendre compte que rien n'est figé. Tout se fait et tout se défait, tout apparaît et tout disparaît. Tout naît et tout meurt à chaque instant. Et si on est ouvert à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, eh bien on va se rendre compte de cette impermanence, de ce changement qui se fait d'instant en instant. Les saveurs, le goût, le toucher, eh bien, en méditation, on est complètement ouvert aux cinq sens, mais on ne saisit rien. Le corps est complètement relax. Si vous avez mal quelque part, eh bien, il ne faut pas hésiter de bouger, de changer de position, parce que si vous restez sur une douleur, eh bien, vous n'allez jamais arriver à vous détendre. Donc, n'hésitez pas à changer de position s'il faut changer de position. Et vous allez lâcher prise. Lâcher prise sur l'ego, notre propre ego. On laisse tranquillement le corps se poser. On sent l'air qui entre, l'air qui sort par les narines, sans rien saisir. On est de plus en plus calme, de plus en plus détendu, et l'esprit de plus en plus clair, vigilant. Notre esprit est ouvert, vivant, et on retrouve cette nature parfaitement claire et pure de notre esprit. L'éveil, c'est de retrouver cette nature parfaitement claire qui a pour fondement d'abandonner de nuire à soi-même et à autrui et d'être bénéfique envers soi-même et envers autrui. Et pour cela, il faut voir tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Et ça, c'est un long chemin. Et pendant la méditation, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, au maximum, ne rien faire. Les maîtres nous disent toujours, il ne faut rien faire avec le corps, parce que le corps, il est assis, donc immobile, donc il n'y a rien de spécial à faire avec le corps. Avec la parole, eh bien, c'est pareil, il ne se passe rien, puisqu'elle est silencieuse. Et avec l'esprit, eh bien, on le laisse tranquille. Et si on entraîne son esprit à être posé, calme, eh bien, on va vraiment développer les qualités qui vont nous amener à un véritable bonheur. Donc, il est important de s'entraîner à être détendu, calme. En méditation, on laisse tous nos problèmes. On laisse tous nos soucis, c'est pas le moment d'y penser. On y pensera bien assez vite lorsqu'on sera plus en méditation. Donc, dans la méditation, ce n'est pas le moment de rester sur nos problèmes. Et dans la méditation, donc, on lâche toutes ces perturbations. On ne saisit rien, ni les phénomènes désagréables, ni les phénomènes agréables non plus. On ne s'accroche pas à quoi que ce soit. On laisse son mental nu, sans saisir ce qui s'élève. Juste retrouver cette sagesse inhérente à l'être, cette sagesse intérieure. Et on reste ainsi, sans saisir les cinq objets d'essence, sans saisir aucun des phénomènes mentaux. Juste essayer de retrouver cet état de simplicité naturelle.
पिया बिन भाए न कोई, पिया बिन भाए न कोई, पिया के मिलन अब बनी रे पहे, बनी रे पहे। पिया बावरी
Enchaînons avec la phrase de la semaine qui est une citation d'Arnaud Desjardins. Le bonheur, on ne le trouve pas, on le fait. Voilà, je vous laisse réfléchir sur cette belle phrase et je vais vous dire à la semaine prochaine. Alors, je vous rappelle que vous pouvez écouter Namasté tous les lundis soirs à 20h et tous les dimanches à 9h, mais aussi sur Internet. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous recherchez CFM Radio Villefranche et vous cliquez sur Namasté. Si vous avez envie de faire quelques petits exercices d'étirement et de respiration, vous pouvez toujours aller consulter mon site qui est étirementyogaaveyron.com ou bien venir me rencontrer dans mon atelier à Villefranche-de-Rouergue qui se situe 6 rue de la Treille. Eh bien, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine et vous dis à très bientôt, j'espère.
Shut up.